Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Et vous écoutez France Culture. Il est nécessaire de rester autant que possible fidèle à l'histoire. L'authenticité de tout ce qui est vérifiable, apportant en quelque sorte sa caution à la pure fantaisie de ce qui ne l'est pas. Michel Pagel et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre parmi nobles seigneurs, gentes dames et singuliers troupeaux en ce dimanche, seigneurs et dames mis en scène par le romancier Michel Pagel dans Le Roi d'Août, fresque médiévale parue avec grand succès en 2002 et rééditée par les Moutons Électriques, dont nous évoquerons d'ailleurs au fil de cette émission les 20 années de publication. Chronique en second temps d'émission signée Céline Duchesnet, Esther Teilhard et Jean-Luc Rivera. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mauvais genre qui jouera à fond le jeu de la mémoire, mémoire authentique et mémoire fantaisiste, fantastique, inventée, aujourd'hui car nous recevons Michel Pagel. Bonjour Michel Pagel.
Bonjour.
La dernière fois que j'ai dit bonjour Michel Pagel à mauvais genre, c'était en novembre 1997.
Ouais. Ouais.
Et voilà. Et voilà. Et vous n'avez pas changé, moi non plus.
Ah ben, c'est gentil, merci.
Et vous étiez, il faut le dire, le premier invité SF de cette émission. Vous aviez été convié, notamment par votre ami, notre ami qu'on salue, Jean-Daniel Breck. Et depuis ce temps-là, mais qu'avez-vous fait, puisque vous n'étiez pas un mauvais genre?
Ben, ma foi, je suis enfermé dans le fin fond du Tarn. Ah, et oui. J'y suis bien, donc j'y reste.
Parmi grimoires et manuscrits.
Voilà, voilà.
Et vous vous y livrez à des activités qui sont, ben, celles qu'on connaît, c'est-à-dire romancier. Beaucoup de romans en 25 ans.
Pas tant que ça. La production que ça, a ouais. beaucoup ralenti parce que chez moi, il y a aussi le traducteur.
Voilà.
C'est le traducteur qui nourrit le romancier. Et donc, le traducteur a besoin de plus travailler ces temps-ci pour nourrir le romancier.
Et quand on voit Le Roi d'Août, on imagine que le romancier a fait acheminer jusqu'aux confins du Tarn des études précises scientifiques, des mémoires de chroniqueurs médiévaux, des biographies, des livres sur ce qu'était la cour de Philippe Auguste.
Oui, pas mal.
Donc c'est ça. Donc le trajet a eu lieu pendant pas mal d'années. Hein, mais c'était combien d'années pour écrire le Roi d'Août en 2002
là, qui est le Roi d'Août, il m'a fallu un an et demi en tout, dont 6 mois de documentation pure.
Très bien. Bon, on va revenir sur cette épopée. Bonjour Melchior Ascaride.
Bonjour.
Vous représentez là l'éditeur, le nouvel éditeur du Roi d'Août, les Moutons Électriques. 20 ans de Moutons Électriques.
Déjà.
Et c'est, ça demande un bel élan, et surtout des idées précises de ce qu'il faut faire, comment il faut mener l'affaire. Parce que pareille maison ne se mène pas par hasard et ni n'importe comment.
Non, ça demande de la volonté, des idées et puis beaucoup de travail collectif.
Voilà, puis vous êtes quand même avec le Bélial, avec Albin Michel Imaginaire et d'autres maisons qui font pas forcément uniquement de l'imaginaire, hein, des grands éditeurs français de la spécialité. Soyez le bienvenu. Il y a évidemment Jean-Luc Rivera.
Bonjour François.
Que je salue. Esther Teilhard fait son retour à mauvais genre. On la salue.
Bonjour François.
Alors, la dernière fois, c'était, ben, nous également, c'était pour parler vampires, c'était pour parler
d'araignées.
Et là, ce sera tout à fait différent. On n'en dit pas trop.
On
révélera la chose au dernier moment. Et Céline Duchesnet, que je salue.
Bonjour François.
Alors c'est formidable, puisqu'on va se rendre compte que vous avez un peu échangé vos royaumes respectifs.
Vous dites ça à cause des araignées.
Voilà, c'est ça. Mais on n'en dit pas plus.
Non. L'araignée est tout à fait spéciale et originale.
Pour la suite, en attendant, bien, cap vers le Roi d'Août, cap vers les Moutons Électriques. Mauvais genre aujourd'hui se consacre à Philippe Auguste et à l'histoire donc de cette maison d'édition française.
On sait que c'est un peu qu'est-ce que l'on faut. Tu cours, je go. Mm.
Demandé à Laurent Polleret, mais de quoi s'agit-il ? Il m'a répondu, un vieux truc, débrouille-toi camarade, néanmoins à nous d'analyser la chose. Et vous avez entendu Michel Pagel, ce sont les fées qui vous souhaitent la bienvenue, les fées qui chantent en chœur Michel, Michel.
Donc, c'est gentil de leur part.
Voilà, on a fait les choses bien, que vous voyez.
Vous êtes arrivé trop tard pour se pencher sur mon berceau, donc c'est bien qu'elle rattrape le coup.
Le comité d'accueil a fini par arriver, et on le salue. Alors, 20 ans de Mouton Électrique, Mouton Électrique, c'est l'origine du nom Melchior Ascaride, très simplement.
Très simplement, c'est le titre original du roman de Philip K. Dick, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Blade Runner, qui est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?»
Et donc c'était le roman préféré du fondateur de la maison, André-François Ruault.
Oui, bah, je pense que tout le monde dans ce milieu est plus ou moins amateur de Philip K. Dick.
Le nom était
original, rigolo, il marque les esprits. Il est à la fois référencé, donc c'était un choix presque évident, on va dire.
Vous avez un très joli logo éditorial, on voit la tête et le museau du mouton pris dans une sorte de fil électrique avec une prise. C'est le même logo depuis toujours.
On l'a dépoussiéré l'an dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Je devrais le savoir puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais on a gardé le logo historique parce que voilà, un logo, ça peut évoluer, mais voilà, c'est peu ou prou une marque, hein, donc il faut quand même garder l'image qu'on a sans
trop la perturber. Les gens se perdent. Et l'oublie alors, les moutons électriques, on va voir un peu de quoi se composent aujourd'hui les différentes collections, les différentes propositions éditoriales. Mais vous auriez une autre proposition de nom, monsieur Rivera ?
Alors, moi, en fait,
Changer le nom.
Oui. Moi, je dirais que ça aurait dû s'appeler, en fait, les moutons éclectiques.
Voilà.
Quand on voit la variété et la richesse des publications qui sont faites, qui reflètent les goûts d'André-François Ruault et puis sans doute de vous, etc., ça laisse vraiment interloquer. Et ouais. C'est formidable.
Oui, c'est un peu la beauté des littératures de l'imaginaire, c'est que... Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Donc pourquoi se restreindre à un seul champ quand il y en a autant face à nous, quoi.
Oui, parce que quand on regarde sur le site des moutons électriques, quand on regarde les différentes collections, bibliothèque voltaïque, bibliothèque des miroirs, bibliothèque rouge, il y a des choses extrêmement variées. Ça va depuis des monographies où on confond un peu l'érudition, la mythographie et la fiction sur des grands personnages de séries, la James Bond, Arsène Lupin, Dracula, Frankenstein. Il y a des auteurs contemporains. On a reçu récemment Philippe Jaworski, autre grand médiéviste de l'imaginaire en France. Et puis, il y a le retour en grâce de toute une série de publications populaires début de siècle, fin de siècle. Donc, il y a une volonté, comment dire, d'aller chasser dans tous les territoires et, justement, bon, le titre vient de Philip K. Dick, mais en définitive, les propositions des éditeurs sont extrêmement variées et dépassent largement ce qu'on appelle la science-fiction au sens le plus traditionnel du mot.
Oui, bah, d'une part, l'imaginaire, c'est pas... un genre ou un courant récent. Hein. C'est quand même plus d'un siècle, un siècle de. Et encore, on pourrait remonter à quelques millénaires si on inclut l'Iliade et l'Odyssée. Et puis même en France, on a une tradition. On a une tradition de romans fantastiques, de romans de science-fiction. C'est un genre aussi très populaire qui a été touché par. Aussi bien Balzac que Théophile Gautier. Pourquoi se limiter? On a cette volonté d'entretenir cet aspect populaire et historique, mais aussi de trouver des auteurs ou autrices contemporains qui ont leur pierre à apporter aussi à l'édifice avec une vision peut-être plus contemporaine et plus adéquate, on va dire, de ce que peut être aujourd'hui l'imaginaire.
Jean-Luc Rivière.
Oui, vous publiez aussi bien des auteurs français que des auteurs américains, etc. Et puis, il y a aussi un pan de publication des Moutons électriques qui me paraît très important. C'est tous ces magnifiques artbooks que vous avez publiés sur le merveilleux scientifique, sur des illustrateurs comme Rackham, etc. Donc vraiment, vous touchez. Et puis il y a des romans graphiques aussi, dont un qui a été dessiné par vous. Je résiste pas au plaisir de citer Fumé. Et donc il y a une importance très grande qui est apportée aussi à tout l'aspect visuel, et je pense qu'on va reparler ensuite des couvertures qui sont vraiment quelque chose de très frappant chez les Moutons. On reconnaît instantanément une publication des Moutons sur une table.
Effectivement, il y a un grand travail graphique et éditorial, mais ça, ce sera plus tard, pour un peu plus tard dans l'émission. On va maintenant, effectivement, alors se concentrer sur le roi d'août. Comment peut-on présenter Michel Pagel depuis sur les 25 ans écoulés, Jean-Luc Rivera? Parce que là aussi, on parlait de moutons éclectiques. Alors effectivement, il y a un éclectisme éditorial extrême chez le Mouton électrique, mais quand on voit le roi d'août qui campait vraiment avec ses 450 pages ficelé et solidement architecturé et charpenté, on se dit que bon, effectivement, c'est un homme. Michel Pagel est un romancier historique chevronné, mais quand on regarde la bibliographie, il y en a pour tout. C'est comme au mouton électrique, il y en a pour tous les goûts, tous les publics et toutes les inspirations, depuis l'humour jusqu'à l'angoisse et le fantastique.
Ah oui, on avait découvert, enfin moi en tout cas, j'avais découvert Michel Pagel il y a bien longtemps avec ses romans de science-fiction. Comme beaucoup, il a débuté, je crois, au Fleuve Noir. Bon, mais il a écrit des romans de fantasy, des romans de fantastique, etc. Donc lui aussi est un romancier éclectique qui a tout à fait sa place au Mouton. Et le roi d'août, quelque part, est une singularité, finalement, je dirais un petit peu, parce que moi, quand je pense roman historique chez vous, je pense à votre série des Immortels, dont il y a eu deux volumes qui se déroulaient dans l'Antiquité. Hein, c'était Sumer, puis l'Égypte antique. Et puis là, il y a ce roman qui, en plus, est d'une excessivement fouillée sur la vie de Philippe Auguste à partir de... Et vous développez un roman à partir d'une vie qu'on pensait connaître, et je me suis aperçu en lisant Le Roi d'août que je ne connaissais absolument pas la vie de Philippe Auguste.
Vous n'êtes pas le seul, mais ce que je veux dire, oui. Qu'est-ce qui a décidé, alors, Michel Pagel à entrer en campagne, c'est-à-dire à rassembler son host, comme on disait au Moyen-Âge, son armée, à se lancer en campagne pour un ouvrage pareil?
Ben, en fait, c'est il y a très très longtemps, j'étais tout jeune écrivain, j'ai lu un livre d'histoire de Régine Pernoud, qui était consacré
spécialiste historienne fameuse, spécialiste de Jeanne d'Arc notamment.
Absolument, et de Richard Cœur de Lion. Et là, en l'occurrence, c'était un livre sur Blanche de Castille. Et il était simplement mentionné au détour d'un paragraphe, puisque ça se passe bien après, que Philippe Auguste avait épousé en seconde noces la sœur du roi de Danemark, qui était une jeune femme tout à fait belle, intelligente, enfin qui avait toutes les qualités.
Une princesse du Moyen Âge.
Voilà, qu'on demandait à l'époque à une tête couronnée féminine. Et il avait l'air ravi, Philippe Auguste, de ce mariage. Et puis au sortir de la nuit de noces, eh ben il pouvait plus la voir. Dès qu'elle approchait, il commençait à être pris de frissons, comme s'il s'agissait vraiment du dernier des monstres, quoi.
Et alors tout ça, il a suffi d'une nuit.
Oui, absolument.
Passer l'un avec l'autre.
Voilà, passer l'un avec l'autre jusqu'au début de la nuit de noces, ils étaient ravis, et à la fin de la nuit de noces, ils l'étaient plus du tout. Et donc on n'a jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi il a eu cette réaction à ce point épidermique contre cette jeune femme qui, a priori, ne méritait pas ça. Et il l'a quand même fait enfermer dans une tour pendant 20 ans. Et pour la reprendre de manière tout aussi mystérieuse, d'ailleurs, à la fin de son règne, juste avant la bataille de Bouvines. Et voilà, donc moi, ça m'a totalement parlé, cette histoire, parce que j'aime bien les énigmes. Et puis, à l'époque, je lisais pas mal de Poul Andersen, qui était d'origine danoise. Donc, il parlait beaucoup de légendes danoises, notamment de créatures non humaines. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose là-dessous, forcément. S'il a plus voulu de cette femme, c'est forcément qu'elle était inhumaine, non humaine. Voilà. Moi, ça m'a paru évident, si vous voulez. Ça serait pas, sans doute pas évident à un historien.
Ah oui, ça c'est
mais
clair que Régis Bernot, la non-humanité de la reine...
Moi, ça m'a tout à fait... Donc, je suis parti de là. Et après, bon, j'ai attendu un peu, parce que comme je disais, j'étais tout jeune romancier, j'avais pas du tout les épaules pour faire un bouquin de cette taille-là, ni de cette ambition-là. Donc j'ai attendu bien 20 ans. Avant de le commencer, mais pendant ce temps-là, j'ai accumulé de la documentation, en sachant que je l'écrirais un jour, ce livre. Et plus j'accumulais la documentation, plus je la lisais, plus je me suis rendu compte que mon personnage, c'était pas Isambourg, la sœur du roi de Danemark en question, qui s'appelait Ingeborg et qu'on a rebaptisé Isambourg quand elle est arrivée en France, mais que c'était Philippe, le personnage vraiment.
Mais c'est quand même lui qui devait porteur être de l'énigme.
Voilà. D'autant plus que
le roi qui incarcère sa reine.
Ouais. Et d'autant plus que Philippe Auguste, quand il avait 14 ans, s'est perdu dans la forêt de Compiègne. Il a perdu la chasse et il a disparu pendant, je sais plus, 24 ou 48 heures. Et on n'a jamais su non plus ce qui lui était arrivé. Il en est ressorti totalement traumatisé.
Mais alors, Michel Pagel, là, vous pointez deux énigmes et un fait, je dirais, qui n'est pas documenté, c'est qu'a-t-il fait pendant 24-48 voilà. heures. Heureusement, vous êtes là pour répondre à cette question. Mais alors, j'imagine que les chroniqueurs de l'époque se sont un peu penchés sur cette répudiation et cette incarcération, que les historiens doivent avoir sur leur idée derrière la tête, quand même. Est-ce que vous êtes parti d'un angle mort de l'histoire et de zone d'ombre totale, ou est-ce que vous avez utilisé déjà des supputations, des projections, des idées?
Non, j'ai rien utilisé du tout. En fait, j'ai pas trouvé du tout d'historien, qui propose une théorie convaincante sur le sujet. Il y a eu un autre roman qui a été écrit sur le sujet, dont j'ai oublié l'auteur à l'heure actuelle, et ce qu'il a trouvé, c'est que simplement Isambourg n'était pas vierge au moment de la nuit de noces, mais ça tient pas, à mon avis, parce que pourquoi Philippe ne l'aurait-il pas dit? Il serait ressorti de la chambre en disant « c'est un scandale, cette femme n'est pas vierge ». Or, il a toujours refusé, lui aussi, de dire pourquoi il ne voulait plus la voir. Donc il y a forcément quelque chose de plus compliqué que ça. Ça ne peut pas être aussi simple qu'une simple question de « vertu », entre guillemets.
France Culture, Mauvais Genre, François Angélier. You got it too good. You can't have nothing less. Hide it all away, close your eyes, take the books off the shelf. Do you believe it? If you can't feel it. The man in black's got a knife in his hand, can't you see it? Got a knife in his hand, can't you see it? Hold it back and let me run. I'll help you find your golden gun. Cause you're a sinner and I'm a winner. I'll have my fun. You gotta go, but not now. Flip the cursor
Voilà, changement d'atmosphère grâce à Laurent Polleret pour aller aux sources cachées des problèmes maritaux et matrimoniaux du pauvre roi Philippe Auguste. Parce que Michel Pagel, lui, a une thèse. Alors, nos amis, la pensée à une question d'intersexualité, Céline Duchesnay.
Non, mais je crois que c'est ce que vous avez dit. En fonction de sa culture personnelle, on va trouver justement, essayer de trouver une réponse personnelle. Moi, je me suis demandé si c'était pas, par exemple, une personne, un intersexe, par exemple.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, mais j'ai pas plus de raison de le dire que vous de penser que c'était peut-être une créature imaginaire.
Une fois de plus, l'intersexe, je vois pas pourquoi Philippe Auguste ne se serait pas précipité hors de la chambre en criant « Mais écoutez, c'est un homme !» Oui, mais je suis même pas sûr qu'il serait allé vérifier si loin. Il y a des choses plus évidentes.
Alors Jean-Luc Rivera, de quoi s'agit-il dans Le Roi d'Août là ?
Alors en fait, dans Le Roi d'Août, c'est le résultat de la propre expérience qu'a cité Michel Pagel à 14 ans. Si le roi a été traumatisé après ses 48 heures de disparition dans la forêt de Compiègne, c'est parce qu'il avait été enlevé par une créature surnaturelle. Une nymphe, on peut le dire. Je crois qu'on casse pas comme parce ça. Que ça apparaît dès le prologue.
C'est le récit d'ouverture.
C'est le récit d'ouverture, donc on peut en parler. Et qui se venge du fait d'avoir été trompé par Hugues Capet quelques siècles avant.
Oui.
Et donc, en fait, d'avoir perdu son bébé qui a été enlevé par Hugues Capet. Et l'origine véritable des Capétiens, c'est que ce sont des créatures en partie sur des bâtards surnaturels. Et d'où le toucher des écrouelles, leur pouvoir de guérison et l'affinité qui se révèle de Philippe Auguste pour l'eau, avec des anecdotes ensuite qui là aussi sont tirées de chroniqueurs de l'époque, ce qui ne veut pas dire que c'est fiable, mais à partir de là, vous montrez très très bien, et ça je pense que ça a dû être aussi assez difficile, assez compliqué à mettre en œuvre et par écrit, tous les tiraillements de Philippe, entre la peur d'être damné, parce que surnaturel en partie, et en même temps, cette foi chevillée au corps, comme les gens de son époque.
Alors, Michel Pagel, réponse en plusieurs temps. D'abord, comment avez-vous choisi de vous orienter vers la thèse de la nymphe prédatrice, deuxièmement, et puis après l'imaginaire construit avec l'eau et tout, comment s'est passé cette espèce de genèse comme ça, imaginaire, d'événements historiques, eux, bien réels?
C'est difficile à dire. Comme je disais tout à l'heure, j'ai imaginé immédiatement qu'il y avait quelque chose de surnaturel là-dessous, ou d'un peu fantastique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'eau ? Je pense que je l'ai choisi au hasard, je sais pas pourquoi j'ai choisi l'eau spécialement, parce que en fait dans ce monde, j'imagine qu'il y a une race qui vit auprès de l'humanité mais cachée de l'humanité et dont les divers membres sont liés à l'un ou l'autre élément. Donc certains à la terre, certains à l'eau, certains aux forêts.
L'air, le feu, les quatre éléments, les élémentaires.
Et ou bien même le feu, comme ce qui sont les arbres qui sont des équivalents de dryades finalement qui vivent dans les arbres. Et j'ai pris l'eau parce que je pense que moi je suis un peu instinctif comme écrivain des fois, hein, donc je me rappelle pas l'avoir vraiment réfléchi. Ça m'est venu comme ça et ça a été comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis aperçu après que c'est confirmé par l'histoire, puisque d'après les chroniqueurs, Philippe Auguste a fait un jour descendre le niveau d'un fleuve pour faire passer son armée et a aussi ramené une source, fait rejaillir une source pour abreuver son armée cette fois.
Mais ça, c'est de l'histoire légendaire de la géographie royale ou est-ce que c'est...
Alors ça, c'est ce qui est dans les chroniques d'époque.
Oui.
Qu'ont écrit des gens comme Rigord ou Guillaume le Breton, qui ont été les chroniqueurs du règne de Philippe Auguste. Et pour eux, c'est bien sûr Dieu qui est intervenu et qui a donné au roi le pouvoir d'avoir ce pouvoir sur l'eau. Mais le problème, c'est que voilà, est-ce que c'est moi qui suis le plus fantastique là-dessus ou est-ce que c'est eux ? À chacun de trouver sa réponse.
Thank you.
Tu mens, ne put s'empêcher d'affirmer Philippe. Tu voulais être reine, c'est pour cela que... Ne dis pas de bêtises, le coupa Lysamour avec plus de commisération que de colère. Qu'en avais-je à faire d'être reine? Peux-tu me le dire? Je suis une fille de l'eau. Dans vos villes, j'étouffe. Et puis, il y a autre chose, la magie, ou la nature, comme tu préfères, est une dame capricieuse. Ceux d'entre nous qui choisissent de vivre parmi les humains doivent payer pour cela un prix exorbitant, grandir et vieillir au même rythme que leurs frères d'adoption. Si j'avais suivi Hugues, je ne serais plus que poussière depuis bien longtemps. Il y en a parmi nous pour considérer que ce prix n'est pas trop élevé. Il croit que nous sommes condamnés, que la race humaine et elle seule doit hériter de la terre, qu'afin de survivre, nous devons nous fondre en elle, mêler notre sang au sien. Baliverne, à mon sens. Mais ils sont moins rares qu'on pourrait le penser. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait jusque dans ton entourage, dissimulés sous un masque d'humanité. Elle poussa un bref soupir. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête à échanger des siècles de plaisir contre quelques années de pouvoir. Je sais, pour certains, le pouvoir est plaisir. Hugues était de ceux-là. Tu en es peut-être aussi. Moi, non. Un extrait du Roi d'août de Michel Pagel, réédité au Mouton électrique à l'occasion de leur 20 ans. Alors là, effectivement, tout est dit. C'est la nymphe, la dryade qui préfère, au contraire, aux jouissances du pouvoir et au renoncement de ses capacités féeriques et surnaturelles pour le pouvoir. Elle préfère garder, rester ce qu'elle est et laisser les pauvres hommes à leurs affaires de politique.
C'est ça. Et en plus, elle veut se venger de Hugues Capet, et donc à travers son descendant, puisque bon, elle l'aurait fait avant si elle avait pu, mais là c'est le premier sur lequel elle arrivait à mettre la main, vu qu'il s'est perdu justement dans la forêt, pas très loin de la rivière où elle vit. Et elle veut en quelque sorte le violer pour se faire un enfant, on m'a pris un enfant, j'en prends un au roi de France. Voilà. Bon, c'est une application bête de la loi du talion. Elle s'en rendra compte un petit peu plus tard, mais ça explique ce traumatisme de Philippe Auguste aussi, où j'ai considéré qu'il avait été victime d'une agression sexuelle finalement quand il était adolescent. Et qu'il est très fragile de ce côté-là. Et que, comme il s'aperçoit que la femme qu'il vient d'épouser est de la même race que celle qui lui a valu ce traumatisme quand il était adolescent, c'est pour ça qu'il ne supporte pas qu'elle l'approche. Alors que c'est comme les humains, il y a des gentils et des méchants dans cette race de personnage, et il a eu affaire à une très méchante au début, et enfin une très aigrie plutôt, alors que la sœur du roi de Danemark, Isambourg, est quelqu'un de tout à fait bien.
Melchior Ascaride, pourquoi rééditer le Roi d'août à l'occasion des 20 ans des Moutons électriques, indépendamment du fait que le roman est paru il y a 21 ans? Pourquoi ce roman-là? Pourquoi ce type de fiction? Pourquoi cette catégorie d'imaginaire? Déjà, ne dites pas parce que Michel est sympa, mais
parce que ça fait quelque temps maintenant que nous avons entrepris de republier tout l'œuvre de Michel Pagel des origines à nos jours. Non, mais parce que c'est un roman important, et c'est un roman qui montre que l'imaginaire, c'est pas juste Tolkien ou George Martin, mais l'histoire elle-même, l'histoire de France, est parsemée d'imaginaire, que ce soit avec des épées enchantées, des interventions divines, des êtres féeriques, etc. C'est déjà dans notre propre histoire et dans notre propre culture. Et ce genre de roman qui triche avec l'histoire, enfin, qui triche pas vraiment, parce que là, c'est juste remplir des zones d'ombre, mais ça permet d'ouvrir un peu les champs de cette littérature et de montrer qu'au final,
peu ou prou, à peu près toute la littérature est digne d'être de la littérature d'imaginaire.
D'autant plus qu'il y a quand même, dans le catalogue des Moutons électriques, Melchior Ascaride, des publications sur les super-héros, enfin, les héros emblématiques, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, qui participent un peu de cette idée de mélanger l'histoire et la fiction, puisque vous racontez dans une monographie l'histoire d'un héros, en mêlant un petit peu, évidemment, en utilisant bien sûr les fictions dont il est le personnage principal, mais en utilisant la véritable histoire, d'autres histoires, en mettant une sorte de méta-récit héroïque. Là, c'est un peu ça aussi.
Oui, bah, c'est le propre des personnages historiques ou semi-historiques, c'est qu'au final, ils appartiennent un petit peu à tout le monde et à chacun de s'en emparer pour en étoffer l'histoire. Et c'est vrai que dans les monographies qu'on a pu faire par le passé, on peut reconstruire comme ça une histoire, presque une biographie réelle d'un personnage fictif. Donc pourquoi au final la version de Michel Pagel sur l'histoire de Philippe Auguste serait moins valide qu'une autre?
Alors, effectivement, on a évoqué là le volet, le versant imaginaire, ce que Michel Pagel a apporté comme complément personnel à l'histoire du monarque, en tant que romancier, mais il y a tout l'aspect historique. Vous, Jean-Luc Rivière, qui est un fan du roman russe, vous devez être à la fête avec tous ces personnages, toutes ces titulatures, tous ces traités, ces marches, contre-marches, combats, négociations politiques, mariages abrogés.
Je crois que le plus fascinant, c'est de voir que à l'époque, la parole donnée ne vaut rien. On la reprend aussitôt, donc on signe, on se fait des serments à la vie, à la mort, et une semaine plus tard, c'est terminé. C'est la traîtrise permanente, surtout d'ailleurs entre membres d'une même famille, quand on voit toute la manière dont ça se passe entre les différents membres de la famille de Champagne, qui sont parents du roi, opposés à ceux de Hainaut, etc. Plus naturellement, ce sont les prémices du conflit qui va durer pendant des siècles entre les rois de France et les rois d'Angleterre, avec Richard, cœur de lion, qui est vraiment, à un moment, le frère, quasiment, de Philippe Auguste, et ensuite qui se haïssent cordialement, etc. Je crois que ça, c'est peut-être tout aussi fascinant dans votre roman, parce d'ailleurs, c'est très difficile de s'y reconnaître à la fin.
Ah, quand même.
Je ne sais pas comment eux-mêmes faisaient, d'ailleurs.
Ah, Michel Pagel, la volatilité des alliances et autres accords, ententes.
Ça m'a pris un peu de temps pour y mettre de l'ordre. Oui,
parce que c'est pas toujours simple. Il y a une page de remerciements qui est assez fournie. Mais alors, ça, c'est une question que je vous pose. Moi, je suis pas romancier, mais je veux dire, comment arrive-t-on à pétrir ce qu'il a fallu d'informations historiques pour faire un pareil roman, parce qu'il fait quand même 480 pages. Ça demande la liberté du romancier, elle est quand même, vous n'avez pas la bride sur le cou, là, c'est bride courte, là, vous êtes tenu.
C'est-à-dire que comme je me suis imposé de respecter l'histoire et de ne rien inventer, j'ai fait quelques hypothèses, mais dont personne ne peut prouver qu'elles sont vraies ou fausses. Tout ce qui est vérifiable est attesté par les historiens à notre époque. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément la vérité. Peut-être un jour, on découvrira autre chose. Mais oui, j'ai tenu à ce que ce soit absolument véridique du point de vue historique, parce que sinon, mes hypothèses ne reposent sur rien. Il faut absolument que le fond historique soit exact si je veux avoir la moindre chance de faire croire à mon lecteur cette histoire fantastique au point où elle est. La véracité de l'aspect historique donne sa caution à la fantaisie que j'ai plaquée par-dessus dans les zones d'ombre de l'histoire, là où pour l'instant il n'y a rien.
Parce que je reprends la phrase que je citais en ouverture, il est nécessaire de rester autant que possible fidèle à l'histoire, donc vous êtes traité d'événements et de personnages authentiques, donc il y a une fidélité nécessaire, on ne peut pas non plus partir dans la nature totalement sans tenir compte à la fois des chroniqueurs et puis du travail des historiens depuis des siècles. L'authenticité de tout ce qui est vérifiable apporte en quelque sorte sa caution à la pure fantaisie. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous appuyez sur ce qui est vérifié pour en plus décoller après sur vers des horizons totalement imaginaires.
C'est le principe, oui, moi, c'est ce qui m'a intéressé.
Melchior Ascaride, quel point de vue sur cette méthode de travail, c'est-à-dire à la limite de renforcer l'imaginaire avec l'histoire authentique?
Pourquoi pas? Après, c'est vrai que là où c'est compliqué, ça dépend des sources, ça dépend du personnage. Là, c'est vrai que quand on est sur des témoignages médiévaux dont la véracité vaut ce qu'elle vaut, est-ce que ça fait office de vérité par rapport à des personnages plus contemporains? Mais moi, je trouve que c'est intéressant de coller comme ça et d'imaginer reconstruire une histoire. Après, on peut tricher et verser dans quelque chose qui se rapprocherait peut-être plus de l'Uchronie que d'un récit, que d'une biographie fictive. Mais je pense que c'est important qu'on puisse s'emparer de l'histoire et des légendes. C'est un peu notre matière commune. Donc, à chacun de proposer sa version, aucune n'est a priori.
Enfin, pour la période médiévale. Pour la Troisième République, c'est plus compliqué.
Ah bien sûr.
Quoique.
On peut imaginer autre chose. Mais après, s'il y a suffisamment de zones d'ombre dont on peut s'emparer, que chacun propose sa version.
Regardez, s'exclama le maréchal, le bras tendu. Le jeune Plantagenet se demanda un instant de quoi il parlait, puis ses yeux s'écarquillèrent. C'est une illusion, balbutia-t-il. Cela ne se peut pas. Cela se peut si Dieu le veut, corrigea Raoul de Clermont. À genoux, mes seigneurs, à genoux et priez. Ses deux compagnons, cette fois, obéirent aussitôt, joignant leur exaltation à la sienne. Ceux des soldats qui se trouvaient assez près pour observer la scène, eux aussi frappés d'émerveillement, les imitèrent. Le mot se répandit rapidement dans le campement, provoquant un important flux humain. Bientôt, ce fut une foule compacte qui se tint sur la berge, figée dans la prière ou la contemplation. La plupart de ces hommes avaient entendu parler du miracle de Levroux, mais quoique leur âme simple n'eût pas mis la chose en doute, jamais ils n'eussent cru assister un jour à un événement du même ordre. Pourtant, ils y assistaient. De leurs yeux, ils voyaient leur roi, en chemise, plongé dans les eaux, tel le saint qu'on fêterait le lendemain, les traits marqués d'une expression qui pouvait être d'extase aussi bien que de douleur. Et de leurs yeux, ils voyaient les eaux baisser de part et d'autre de lui. La surface qui tout à l'heure léchait les berges en était à présent éloignée d'un pied, et le phénomène se poursuivait. S'accélérait. Le ciel demeurait gris, si bien que pas un rayon de soleil ne jaillit entre les nuages pour se poser sur Philippe et le désigner comme un bienheureux. Plus tard, cependant, nombre de soldats juraient que cela avait été. Voilà un extrait du Roi d'août de Michel Pagel. Là, j'ai l'impression que la question ne se pose plus, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire chroniquée, authentique, de la légende hagiographique. Là, vous avez retrouvé un ton qui est celui de l'histoire médiévale, c'est-à-dire qu'on passe d'éléments tout à fait patents, évidents, à quelque chose qui relève du surnaturel. C'était peut-être le but de la manœuvre.
Mais c'est-à-dire que ça, c'est le passage que vous venez de lire est attesté dans les chroniques. Hein. Mmh. C'est Rigord, voilà. Je crois, qui en parle et qui décrit la scène, bon, pas avec les mêmes mots que moi, évidemment, puisque lui, il écrivait en latin. Mais je ne crois pas qu'il y ait des historiens vraiment pour croire que ce soit vraiment arrivé, ou en tout cas, peut-être pour une raison physique quelconque, le niveau du fleuve a baissé. Mais en tout cas, l'historien, lui, le chroniqueur de l'époque, était soit persuadé que c'était le cas, soit payé pour l'écrire.
Peut-être les deux. Jean-Luc Rivera.
Il ne faut pas oublier non plus que votre hypothèse est très plausible de Philippe Auguste et de Hugues Capet auparavant ayant eu des relations avec une créature surnaturelle, parce que à l'époque de Philippe Auguste, il y a une des très grandes familles françaises qui, elles, se vantent de descendre d'une fée, c'est la famille des Lusignan. Donc l'hypothèse que vous avancez est tout à fait probable, puisque on a une autre famille dont ce genre, dans laquelle ce genre de relation est attesté. Donc à partir de là,
rien à dire. Alors le roi d'août, donc pour les 20 ans des moutons électriques, aujourd'hui Melchior Ascaride, comment positionnez-vous, très beau mot, une grande élégance, comment positionnez-vous cette maison d'édition donc qui a été créée en 2003 par André François Ruot et Olivier Davenas au sein du paysage, d'un paysage qui en quand même en 20 ans s'est considérablement complexifié, il y a beaucoup plus de maisons d'édition, il y a beaucoup plus d'auteurs, les auteurs sur Internet, enfin, il y a véritablement un marché qui a changé. Comment aujourd'hui on fait pour continuer d'être ce que vous êtes ?
On parle beaucoup et on réfléchit tout le temps. Des fois, c'est des réunions ou des discussions qui changent d'une semaine à l'autre. Ça devient évidemment... Si on parle en termes un peu bassement commerciaux, ça devient un secteur qui est très très bouché, très concurrentiel, comme on dit. Donc du coup, il faut arriver à trouver comment on tire son épingle du jeu et comment on se maintient aussi, comment on fait pour tenir 20 ans et plus si possible.
Alors une réponse évidente, faut trouver des auteurs qui vendent bien. Bon, vous avez quelqu'un comme Jaworski qui chez vous est un
Mais des auteurs de la trompe de Jean-Philippe Jaworski, ça tient du miracle. Et si on savait comment le reproduire, évidemment on le ferait pour tout le monde. Mais je pense que malheureusement il y a pas ou plus peut-être de recette miracle. Maintenant il reste des choix qu'on fait, des convictions auxquelles il faut tenir.
Vôtres, quelles sont-elles ?
Considérer les genres de l'imaginaire comme des genres aussi nobles que peut l'être à peu près tout le reste de la littérature et ne pas transiger sur les récits qu'on propose, sur leur solidité et sur le style d'écriture. On peut entendre tout et son contraire sur la littérature de l'imaginaire. Peut-être certaines choses sont vraies ou un peu des versions déformées de la réalité, mais nous on porte une grande attention sur le style d'écriture. On veut vraiment proposer de la littérature et pas juste des jolies histoires.
Pas juste des jolies histoires. Jean-Luc Rivera, il y a aussi faire de beaux livres.
Oui, je pense que, et là nous avons la chance d'avoir le directeur artistique des Moutons avec nous, c'est qu'il y a une identité visuelle des Moutons qui est très forte, comme je le disais tout à l'heure, sur une table. Les livres des Moutons se remarquent d'abord par leur format carré et ensuite par leur identité visuelle de couverture. Donc là, c'est quelque chose. Comment avez-vous décidé d'abord ce genre de format? Et puis ensuite, comment décidez-vous à chaque fois de la présentation?
Le format, il a été créé. Moi, ça fait 20 ans que les Moutons existent, et moi, ça fait 10 ans là que j'y suis. Le format existait donc avant moi. Je suis pas à l'origine du format. Par contre, pour ce qui est du design, on va dire de l'identité graphique de la maison. Alors, il faut savoir que mon prédécesseur Sébastien Hayez avait déjà considérablement abattu de travail, parce que c'est grâce à son travail que moi je suis allé voir les Moutons par la suite, parce que je me suis dit tiens, il y a une maison qui propose quelque chose qui m'intéresse et qui est dans les lignes de ce que moi je...
Oui, donc
il
y a un raffinement sur l'image, les illustrations de couverture, le pelliculage, le format, c'est...
Ouais, et puis aux Moutons électriques, on est à peu près tout le monde, on est des passionnés d'image aussi. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit via la bande dessinée, via l'histoire de l'imagerie aussi, féerique, du merveilleux scientifique. Au même titre que la littérature, cette iconographie-là a une histoire aussi, a une portée, évolue elle aussi évidemment. Et on pense aux Moutons que c'est logique que le style littéraire, le livre en lui-même dans son contenu évolue en même temps que son contenant, et que aujourd'hui un roman ne peut plus sortir avec une couverture qui serait très bien sortie dans les années 90. Les choses changent, les styles changent, les maisons d'édition grandissent et évoluent, donc on à nous de suivre le mouvement et de le précéder quand, si on peut.
Michel Pagel, vous êtes souvent intervenu sur vos couvertures?
Jamais. Non.
Quand vous étiez au Fleuve Noir, quand vous étiez...
Alors au Fleuve Noir, il y a eu une époque où ils avaient un fonds de couverture acheté à Doc Vlou Young Artist et on pouvait choisir dans le fond la couverture. Mais c'était en général des couvertures qui avaient orné avant des romans américains. Voilà. Et on se retrouvait. Donc moi j'ai une couverture qui avait été publiée sur un Anne Rice aux États-Unis. Par exemple. Mais après, non, à partir du moment où l'éditeur choisit, déjà l'éditeur il a sa maquette et puis ses illustrateurs. Et nous en tant qu'auteur, on n'a pas vraiment notre mot à dire sur la couverture. Mmh. On m'a jamais proposé de la faire moi-même, par exemple. On a bien fait.
Oui, on a bien fait. Jean-Luc Rivera, un dernier mot.
Un dernier mot, moi je trouve aussi que ce qui est très important chez Au Mouton Électrique, c'est ce travail sur la science-fiction et la littérature d'imaginaire ancien. On sent que on a affaire à des passionnés hein, qui publient aussi des choses dont on ne peut pas penser que ça va être des succès de librairie instantanée. Hein. La réédition de Zygomar de Léon Sazy...
Bon, certes.
Nous sommes très heureux qu'elle soit faite. Et là, pour ça, moi, j'admire parce que c'est en même temps un risque que vous prenez. Et on le sent pour beaucoup d'autres rééditions que vous faites. Léon Groc, aujourd'hui, ça parle.
Toto Fouinard.
Toto Fouinard, ça parle tellement. Mais en même temps, c'est le fond historique qu'il est nécessaire d'avoir à disposition.
Michel Pagel, Le Roi d'Août, un succès de 2002, très opportunément réédité, magnifiquement réédité par les Moutons Électriques, donc la maison d'édition de André-François Ruot et Melchior Rascaride, maison d'édition qui fête...
Et Mérédith de Bach,
et maison d'édition qui fête cette année ses 20 ans. Bon anniversaire aux Moutons, et merci 25 ans plus tard d'être revenu à Mauvais Genre, Michel Pagel.
À dans 25 ans.
L'almanach de l'étrange. Céline Duchesnay, c'est à vous.
Saviez-vous qu'il existe des araignées qui ont le pouvoir de vous faire danser? Ces araignées que l'on trouve en Sardaigne sont surnommées argia en italien et leur morsure fort douloureuse peut provoquer chez l'humain une sorte de transe. On parlera alors de danse de l'argia. Il faut savoir que ces araignées ont une particularité. Elles mordent exclusivement les hommes et entraînent chez eux un comportement peu courant puisque les hommes mordus se transforment en femmes en portant des vêtements féminins quand ils ne se mettent pas à pousser des cris comme s'ils accouchaient. Autant dire que cela fait désordre et que la communauté villageoise à laquelle appartient le mordu va chercher par tous les moyens à le ramener dans le droit chemin. C'est du moins ce qu'un spectateur extérieur pourrait penser en assistant à ces scènes étonnantes. Mais c'était sans compter Clara Galigny, une anthropologue italienne qui a mené une enquête de 5 années sur cette étrange transe. De 1960 à 1965, elle a été dans plus de 200 villages pour comprendre ce qu'il se passait. Elle a récolté de nombreux témoignages sur les personnes mordues par les araignées et sur les cérémonies organisées pour les soigner. Car même si cette danse a disparu dans les années 50, elle reste très présente dans les mémoires. Elle a ainsi pu enregistrer des chants, comme ce chant de lutte contre l'argia où une femme menace l'araignée venimeuse de lui casser les mâchoires si elle l'attrape.
E poi te non fai da sprenda mia, e gustavi tane da prenda mia, a che vudi solia prenda mia, custuna lubria prenda mia, a zuami sorrasta prenda mia.
En 1967, Clara Galigny sort un livre sur ces cérémonies intitulé « La danse de l'argia, fête et guérison en Sardaigne ». Il est traduit en 88 en français et vient tout juste de ressortir aux éditions de l'Éclat Poche dans une nouvelle traduction. Grâce à cet ouvrage, on va suivre pas à pas l'anthropologue dans ses recherches et comprendre comment fonctionnaient ces rituels de soins à travers des chants, des danses, des cérémonies qui vont durer quelques jours. Car, explique Clara Galigny, en Sardaigne, l'araignée, l'argia, n'était pas perçue comme un un simple animal, mais comme une âme errante, un esprit féminin qui s'est emparé de l'homme par la morsure et qui dès lors l'habite. Afin de déloger cet esprit, il faut retrouver l'identité de l'Argia, c'est-à-dire le nom de la femme morte qui a pris possession du corps de l'homme. Est-ce une jeune fille, une femme mariée, une femme qui accouche, une veuve? De quel village vient-elle? Les questions et les réponses sont données à travers des chants, comme par exemple cette question « Tu t'es vêtue de noir, dis-moi si tu es nubile ou si ton mari est mort » et la réponse « Dodo, dodo, j'ai été fiancée, il a fait l'armée, j'ai mon fiancé, la petite m'attend. » Les réponses permettront ainsi petit à petit de découvrir qui est l'âme errante, puis de la faire sortir du corps de la personne mordue et d'obtenir la guérison. Ces guérisons, prises en charge par la communauté des villageois, tiennent autant de l'exorcisme que de la fête. Car en mêlant chants, danses, dialogues poétiques, gestes érotiques, lamentations, ce rituel basé sur un travestissement s'apparenterait presque à un carnaval. Pendant quelques jours, les règles du partage des sexes sont abolies et le possédé, qui aura changé de sexe le temps du rituel, aura entraîné dans sa danse toute sa communauté. Il en ressortira guéri grâce à la puissance du collectif et la vie pourra prendre son cours. La danse de l'Argia, fête et guérison en Sardaigne de Clara Gallini vient de sortir aux éditions de L'Éclat Poche dans une traduction de Giordana Charouti et de Michel Valenzi.
Merci pour cet almanach de l'étrange arachnéen Céline. Il y a 2 ans, Céline Duchesnay, vous nous révéliez les arts. Quatre ans de Aurélie Gallois. Mais l'aventure d'Aurélie Gallois continue, n'est-ce pas? Esther Teilhard, vous vous êtes rendue à sa dernière exposition.
Tout à fait, François. J'aimerais vous parler donc de l'artiste Aurélie Gallois et de ses bijoux indiscrets. Il s'agit de petites boîtes à bijoux dans lesquelles Mademoiselle Gallois peint à l'huile et à la feuille d'or des scénettes érotiques. Elles ont récemment été présentées à la galerie Mouvement Moderne, sous l'intitulé de Bijoux indiscrets, en référence à un ouvrage coquin de Diderot, qui a été publié sous le manteau en 1748, dans lequel un prince fait parler le bijou des femmes à travers leurs jupes. Ce qui est génial, c'est que non seulement elle a présenté ses petites boîtes, mais elle a aussi demandé à 20 auteurs d'illustrer chacune des petites scénettes coquines qu'elle a peintes. Donc elle a demandé évidemment à notre ami Christophe Beer de choisir une de ses petites miniatures et d'en écrire une nouvelle, et Beer ne nous a pas étonnés en choisissant la peinture d'un anus, qui était une minuscule boîte argentée à l'intérieur de laquelle on trouve une petite peinture rose qui ressemble à une fissure, un petit craquelement très délicat. Et Beer nous a donc donné une superbe nouvelle dans laquelle le narrateur pose en muse pour une peintre autoritaire, il faut le dire. Et le sujet de la toile étant son anus, donc le narrateur à 4 pattes s'offre complètement à l'artiste, buvant dans une écuelle, c'est totalement bizarre. En découvrant le travail de Mademoiselle Gallois, j'ai été très étonnée par l'habileté avec laquelle elle jongle avec une tradition très 18e de l'art érotique. Il y a quelque chose de très bien réalisé, de très érudit dans sa peinture. Elle débute son ouvrage par cette phrase absolument mythique de Fragonard qui disait « je peindrai avec mon cul ». Et en même temps, il y a quelque chose de très moderne. Le plaisir féminin est en première ligne, peint avec gourmandise, presque avec désobéissance. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une sorte de pudeur quand on est spectateur et qu'on ouvre ces petites boîtes, on ne sait pas trop exactement à quoi s'attendre. On est d'abord timide, on ouvre doucement la boîte, et puis tout d'un coup, on se retrouve voyeur, regardeur presque à l'œil lubrique, devant l'érotisme des peintures d'Aurélie Gallois. Ouvrir ses boîtes, c'est regarder à travers le verrou. On en revient toujours à Fragonard. Mais ce verrou-là n'est pas celui d'une ambiguïté sur la nature consentie ou non de la scène. La femme qu'Aurélie Gallois peint est en pleine jouissance. Elle ouvre ses jambes, elle regarde son corps, elle est complètement maîtresse de son anatomie. Il y a une de ses boîtes qui est ma préférée, je dois le dire, qui est une petite boîte ronde qui ouvre sur une femme nue se frottant contre un tronc d'arbre. Elle est absolument magnifique. Et ce qui est aussi génial, une autre idée superbe de l'artiste Aurélie Gallois, c'est d'avoir travaillé avec le maître parfumeur Dominique Ropion, pour accompagner son exposition d'une odeur de corps. De nouveau, on a l'impression d'être dans une tradition un petit peu classique, celle de parfumer les lettres érotiques, les lettres coquines, mais ici, pas du tout. Le parfum n'est pas du tout sucré ou écœurant, c'est un parfum salé. Elle a vraiment travaillé pendant longtemps pour trouver une odeur de corps. Et elle m'a expliqué que quand elle a commencé son travail en 2015, c'était encore assez rare de voir une femme s'attaquer à l'érotisme, voire à la pornographie, sans tomber dans la niaiserie vanille ou se situer sur la scène de l'art queer. Elle assume pleinement sa position d'artiste femme hétérosexuelle, qui représente un corps féminin très sensualisé, qui s'excuse de rien, tout en ouvrant la porte, la petite boîte de la jouissance de la femme, qui défend, voire exhibe son plaisir sexuel. Une dernière chose, c'est qu'elle m'a raconté le pouvoir érogène de ces boîtes. Apparemment, des femmes auraient retrouvé leur libido en l'ouvrant. Elle dit elle-même faire des pipes chauds portables. Elle se retrouve en avril au PAD, le Paris Art Design, puis au laboratoire expérimental Jacques Mousse, où elle va faire des grands formats en travaillant le latex. Voilà, ça promet.
Merci Esther Teillard, et puis tous les renseignements à retrouver sur notre site Parole à Jean-Luc Rivera.
Alors moi, je vais pas éveiller, je pense, la libido des personnes qui nous écoutent. Je vais d'abord vous parler d'une trilogie, Wayward Pines, de Blake Crouch, qui vient de sortir dans la collection Totem chez Gallmeister. Et Blake Crouch est un auteur de science-fiction qui a eu plusieurs romans déjà traduits en français. Les deux premiers volumes de cette trilogie avaient été publiés il y a déjà de nombreuses années. Et on attendait vainement le troisième. Ça y est, ça vient maintenant d'être fait. On a le récit complet. Alors les premières pages font irrésistiblement penser à Twin Peaks, hein, avec l'agent fédéral Ethan Burke qui est envoyé dans la petite ville rurale de Wayward Pines au cœur de l'Idaho pour enquêter sur la disparition de deux de ses collègues. Alors l'hommage est voulu, mais très très vite, Blake Crouch développe une histoire qui est plus qu'intrigante. Au fur et à mesure que la mémoire revient à Ethan Burke, qui s'est réveillé blessé amnésique, nous allons découvrir les mystères de Wayward Pines, cette ville dont on ne peut sortir, où tous les habitants sont sous une surveillance constante et ont interdiction de parler entre eux de leur vie avant leur réveil dans la ville. Et quel est le rôle de David Pilcher, qui est un génie milliardaire qui vit reclus dans la montagne qui surplombe la ville et qui semble tirer tous les fils de ce village Potemkin où tout n'est que faux semblant. Nous allons découvrir la vérité en même temps que Burke, au travers de récits entrecroisés de plusieurs des habitants de la ville, et cette vérité se révélera totalement vertigineuse. Une fois plongé dedans, impossible de reposer les volumes. C'est un très bon thriller de science-fiction, même si l'on peut se poser une ou deux questions de vraisemblance sur des points de détail. Mais peu importe, on se laisse emporter par la suspension des crédulités et le plaisir de lecture.
Une mention maintenant.
Alors, on change complètement de registre avec Les Vagabonds de Richard Lange. Chez Rivage, on est en 76, on est juste avant les fêtes du bicentenaire, et on suit la route de Jesse et de son frère Edgar, qui est un simplet, on peut le dire. Ce sont des vagabonds, c'est-à-dire des vampires qui errent depuis des dizaines d'années, et qui se nourrissent de tous les rebuts de la société. Le roman ne met en scène que des personnages, que ce soit tous les vampires qui sont dedans, ou les chasseurs de vampires qui sont des fanatiques cinglés, tous. Il n'y a rien, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le roman est noir, absolument formidable.
Merci Jean-Luc, merci Michel Pagel et merci Melchior Ascaride d'avoir été ce soir et cet après-midi les invités de Mauvais Genre pour Le Roi d'Août, dont réédité aux Moutons Électriques, dont on fête les 20 ans. Nous avons également parlé de Clara Galini, La Danse de l'Argia, de la collection La Poche, Aurélie Gallois, exposition à Paris aux impressions...
Au mouvement moderne,
Blake Crouch, Wayward Pines, c'est chez Gallmeister, collection Totem, et Richard Lang, Les Vagabonds, c'est chez Rivage. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Sébastien Royer, Claire Poissignon, Céline Duchesne, Claire Martin Duguerre, Esther Teillard, Jean-Luc Rivera et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre.